C'est pas un conflit qui a commencé aujourd'hui ou hier. C'est un enclave qui a été créé il y a longtemps par l'Empire russe pour, en mélangeant la population locale avec des gens qui sont venus en provenance de l'Iran et de la Turquie et qui étaient implacés dans ces territoires à l'époque russe. Donc il s'agit d'un territoire qui s'appelait avant le conflit le Oblast ou la région autonome de Haut-Karabakh qui faisait partie intégrale de la République soviétique socialiste d'Azerbaïdjan et qui quand même a été séparée de l'Arménie par deux régions, de Lachin et de Kelbadjar, qui n'ont pas été peuplées par les Arméniens. Par contre, à la fin des années 80, la majorité de ce territoire, à peu près 75% étaient des Arméniens et 25% étaient les Azerbaïdjanais. Donc pendant la phase active de ce conflit qui a commencé dans les années 87-88 et s'est terminé en 94, malheureusement à cause de cette occupation de la part de la République d'Arménie de ce territoire mais aussi de cette province autour de Haut-Karabakh, on a eu vraiment l'opération de nettoyage ethnique. Ça veut dire que 25% des Azerbaïdjanais dans le Haut-Karabakh ont été expulsés. Et les sept provinces autour de Haut-Karabakh qui étaient peuplées par les Azerbaïdjanais aussi ont été vidées de population azerbaïdjanaise. Donc il s'agit en total à peu près 750 000 personnes déplacées. Et si on ajoute ici 250 000 des Azerbaïdjanais qui ont vécu avant le conflit dans la République d'Arménie, ça fait à peu près 1 million de personnes qui, à cause de ce conflit, sont devenues soit des réfugiés, ce sont les gens de l'Arménie qui ont franchi la frontière internationale, et 750 000 personnes d'origine azerbaïdjanaise qui sont devenues des personnes déplacées. Pour résumer notre réaction à tout ce qui s'est passé au début du mois d'avril 2016, il s'agissait d'une rompure de cessez-le-feu qui a été en place depuis le mois de mai 1994. Et bien sûr que pour protéger notre population civile qui a été ciblée au premier lieu pendant cette attaque, on a pris la décision de riposter. Et donc, cette escalade a duré pendant quelques jours. Et après l'intervention des médiateurs, en particulier du côté russe, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, au niveau de chefs d'état-major des forces armées, se sont mis d'accord pour le cessez-le-feu, qui a été validé le 5 avril à Moscou en présence de leur homologue russe. Donc il s'agit d'une escalade et, disons, recommencement des hostilités militaires le plus important depuis 2014. Pendant cette escalade, les forces armées de la République d'Azerbaïdjan ont pu libérer certains territoires stratégiques au nord et au sud des territoires occupés d'Azerbaïdjan, en assurant le contrôle sur quelques collines stratégiques qui nous a permis vraiment d'assurer la sécurité de populations civiles qui a été la première victime de cette escalade.
Dans ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a eu des déplacements de populations des deux côtés. À l'origine, quand même, il y a un changement de statut de la région du Haut-Karabakh à la toute fin de l'Empire soviétique et de l'indépendance de l'Azerbaïdjan. Est-ce que vous pouvez concevoir malgré tout que la majorité de la population de ce territoire voulait vraiment le rattachement à l'Arménie ?
Il s'agit aussi de principes de l'intégrité territoriale et souveraineté des États. Vous savez très bien qu'il y a plusieurs principes qui font partie du droit international, y compris les deux principes qui sont parfois en confrontation. C'est le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, on dit autodétermination, et aussi le respect vers l'intégrité territoriale. Mais dans la charte des Nations Unies, mais aussi dans le décalogue des principes de Helsinki, de OSCE, c'est clair qu'on ne peut pas réaliser le droit d'autodétermination au détriment de l'intégrité territoriale des pays et des États souverains. Donc si c'était le cas, vous pouvez imaginer qu'est-ce qui se passerait en Europe quand vous avez plusieurs minorités qui habitent dans les confins d'autres pays et sans le consentement des États, ça serait vraiment quelque chose qu'on ne peut pas même imaginer. Donc bien sûr que cette perspective que ce territoire occupé aujourd'hui par la République d'Arménie puisse être rattaché à l'Arménie ou devient un deuxième État arménien dans nos territoires n'est pas du tout envisageable.
Dans l'absolu, comment voyez-vous le futur du Haut-Karabakh ? Parce que même si les résolutions de l'ONU étaient respectées, ouais, même si le principe de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan était respecté, rétabli, quid du Haut-Karabakh et de ses habitants qui restent tout de même arméniens ?
Bien sûr qu'il y a un processus de la paix qui est mené par soi-disant groupe de Minsk de l'OSCE, coprésidence tripartite, la France, les États-Unis et la Russie, qui se sont engagés pour essayer de trouver la formule qui va mettre d'accord l'Arménie, mais aussi l'Azerbaïdjan, sur la solution définitive. L'escalade de début d'avril a montré encore une fois que le statut actuel d'occupation n'est pas ni admissible ni tenable. Donc on voit que le rapport de force sur le terrain a changé depuis 1994. Du point de vue politique, économique, démographique, militaire, donc on ne peut pas parler de même équilibre qui a eu lieu il y a presque 20 ans. Donc ce n'est pas du tout envisageable que l'Azerbaïdjan peut tolérer cette occupation illégale qui a été quand même condamné en tant que tel par la communauté internationale. Il s'agit aussi des 4 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont été adoptées pour condamner l'occupation illégale des territoires d'Azerbaïdjan. Ces résolutions sont très importantes parce qu'elles reconfirment le respect de la communauté internationale vers l'inviolabilité des frontières d'Azerbaïdjan, son intégrité territoriale et souveraineté. Bien sûr qu'on ne peut pas imaginer consolidation de ce statu quo sans la solution de long terme. Comment vous voyez cette solution ? D'abord, il faut changer le statu quo. Pour changer le statu quo d'occupation, il faut commencer des mesures concrètes pour déoccuper des territoires qui sont autour de Karabakh. Donc le plan des médiateurs consiste dans un premier temps de retirer des forces armées de la République d'Arménie des 5 districts autour de Haut-Karabakh. On ouvre avec en même temps des communications entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais aussi entre l'Arménie et la Turquie. Donc on commence le processus de retour des personnes déplacées de ces 5 territoires qui appartiennent à l'Azerbaïdjan. Et bien sûr qu'il faut qu'on assure des garanties de sécurité dans ces territoires. Donc il s'agit d'opérations de maintien de la paix qui sera mise en œuvre par l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et coopération en Europe, qui a été mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU de s'occuper de ce conflit. Dans une deuxième étape, on va commencer les discussions de l'évacuation des 2 districts, Latchin et Kelbajar, et les paramètres de corridor qui va lier la République d'Arménie avec la région du Haut-Karabakh. Et donc, on va commencer à cette époque-là discuter les paramètres de statut temporaire de Haut-Karabakh.
Potentiellement, à l'issue de ce processus de paix, de ce statut intermédiaire du Haut-Karabakh, est-ce que le gouvernement de Bakou est tout de même prêt à reconnaître l'indépendance de ce territoire ou son rattachement à l'Arménie ?
C'est plus réaliste de parler aujourd'hui d'un statut de large autonomie pour ce territoire au sein de l'État d'Azerbaïdjan. Comme j'ai déjà dit, ce n'est pas possible d'envisager la création d'un deuxième État arménien donc dans les territoires de la République d'Azerbaïdjan ou rattachement de ce territoire à l'Arménie. On ne donne pas des cadeaux de territoire. Par contre, on est conscient qu'il faut rétablir la paix, il faut créer les conditions pour coexistence harmonieuse et pacifique des 2 communautés dans le Haut-Karabakh. Les Arméniens qui feront la majorité, mais aussi les Azerbaïdjanais, avec les conditions qui seront rétablies pour la coexistence normale de ces 2 populations, c'est tout à fait faisable. D'autant plus que, en général, si on parle de l'ambiance qui règne en Azerbaïdjan aujourd'hui, c'est un pays totalement laïque, profondément laïque, mais avec une population majoritairement musulmane. On a cette coexistence harmonieuse des différentes religions, différentes ethnies. Donc, ce n'est pas du tout impossible qu'un jour, les Arméniens et aussi les Azerbaïdjanais vont vivre ensemble et profiter de cette paix.